Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. De Rémus et Romulus aux frères Bogdanov en passant par les Dupondé et Duponté, les jumeaux fascinent. Mais cette fascination est parfois source de malentendus et d'idées reçues, comme le cliché de la télépathie gémellaire ou celui de l'aîné qui serait celui qui naît en second. Cette chasse aux idées reçues sera l'occasion ce matin de mieux comprendre la gémellité. Quelle est la différence entre jumeaux monozygotes et dizygotes? Y a-t-il vraiment plus de jumeaux qu'auparavant? Les étapes du développement sont-elles les mêmes que pour les autres enfants? Comment les parents doivent-ils aborder la fusion entre jumeaux? Faut-il absolument les différencier, les séparer à l'école primaire, les habiller différemment? Leur éducation coûte-t-elle plus cher? Existe-t-il vraiment une position dominante chez les jumeaux? Nous attendons également vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulay.
Bonjour.
Qui est un peu le torticolis aujourd'hui.
Oui, c'est ça, j'ai du mal à me tourner là.
Et vous proposez tous les mercredis votre chronique qui s'appelle Ma vie de parents au menu ce matin.
Moi, comme j'y connais absolument rien aux jumeaux, mais comme pour moi, cliché oblige, qui dit jumeaux dit comparaison, voire peut-être rivalité, compétition. J'ai décidé de vous parler d'une autre rivalité, celle des parents entre eux. Ça va saigner.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des jumeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Une chanson inévitable ce matin, la célèbre chanson des jumelles dans Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Bonjour Fabrice Bach.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie spécialisé dans la gémellité, membre du comité scientifique de la fédération Jumeaux et Plus, et vous publiez chez Solar Jumeaux, 25 histoires pour faire de la gémellité une force, avec des illustrations de Léonie Després. C'est une petite bible à mon humble avis. Bonjour Isabelle Sudre.
Bonjour.
Vous êtes délégué national de la Fédération Jumeaux et Plus, et vous êtes parent de jumeaux nés en 2004.
C'est bien ça, entre autres.
Entre autres, parce qu'il y en a d'autres. Hein.
C'est ça, il y en a d'autres.
Pas d'autres jumeaux, mais il y a d'autres enfants.
Ah bon, voilà.
Bonjour Myriel Decamp, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes mère de trois filles, dont des jumelles, et vous aviez publié au Cavalier Bleu, dans la collection Idées Reçues, Jumeaux, la fascination du double, un excellent livre. Alors à ce propos, les jumeaux fascinent, intriguent, attirent l'attention, c'est un phénomène considéré comme hors norme. On retrouve cette fascination dans toutes les mythologies, dans toutes les civilisations.
Oui, tout à fait, c'est ce qui est assez impressionnant. On retrouve cette fascination depuis l'aube des temps. C'est vrai que cette fascination dérive du fait que nous, individus uniques, nous venons au monde et nous allons chercher quelqu'un avec qui traverser cette chose qu'on appelle la vie. Et là, la spécificité des jumeaux, c'est qu'ils viennent au monde à deux. Donc ils ont tout de suite un compagnon de vie avec qui ils vont traverser tout ce chemin, toutes les problématiques. Et ça, c'est fascinant.
Et à propos de mythologie, je pense évidemment aux Gémeaux du Zodiaque, à Castor et Pollux, aux fils jumeaux de Zeus et Léda, Rémus et Romulus.
Tout à fait. Tout
puis
à
dans
fait.
Bien d'autres civilisations.
Toutes les cultures, toutes les civilisations ont un mythe gémellaire, systématiquement, avec deux grandes catégorisations. D'un côté, les jumeaux vont être loués, car c'est un bienfait des dieux. Il y a une peuplade en Afrique, lorsqu'une mère a des jumeaux, elle ne fera plus rien de sa vie, parce que c'est un bienfait pour l'ensemble du village. Ça fait rêver, je pense, beaucoup de nos auditrices, en se disant finalement c'est pas mal. Mais dans un autre village, paradoxalement, les jumeaux vont être maudits, vont être considérés comme étant l'apparition d'un aspect malveillant dans le village, et ça peut aller jusqu'à tuer un des enfants. Et le jumeau survivant va devoir honorer celui qui est décédé tout au long de sa vie. C'est particulier cette dichotomie qui est présente.
Au fond, qu'est-ce qui fascine ou déstabilise dans la gémellité, Isabelle Sudre?
Je pense que ça fascine surtout les gens qui ne sont pas concernés et qui le voient de loin. Ça déstabilise plus les familles concernées elles-mêmes et les futures mamans. Et ça, c'est plus lié, je vais être très pragmatique, mais c'est plus lié à l'annonce d'une grossesse à risque. Dans un premier temps, avec toutes les angoisses que ça peut générer, du « vais-je arriver à mener cette grossesse à terme dans de bonnes conditions ?» Et puis ensuite, toutes les angoisses liées à l'organisation, à l'aspect financier, vous l'avez dit aussi. Donc c'est toute une vie de famille. famille qui est bouleversée et comment allons-nous arriver ou pas à mettre en place cette nouvelle organisation. Et c'est pour ça que les associations Jumeaux et Plus interviennent pour soutenir les familles.
La fiction renforce cette fascination, Fabrice Bach. On retrouve des jumeaux chez Edgar Allan Poe, chez J.K. Rowling avec les frères Weasley, Hergé et avec les célèbres Dupont d'Été.
Alice au Pays des Merveilles avec Tweedledee Tweedledum, le fameux film de David Cronenberg, Faux-semblant.
Faux-semblant.
Que je conseille pas forcément aux parents de jumeaux, c'est même assez trash.
Pas vraiment.
Mais sur la fusion et les choses qui sont montrées qui sont assez extraordinaires. Et je pense qu'effectivement, cette fascination de la jumélité perdure au fil des siècles. Et moi, ce que j'en vois aujourd'hui, c'est que, à travers une émission comme la vôtre, à travers le travail de la Fédération Jumeaux et Plus, c'est véritablement donner une véritable image de ce qu'est la jumélité et pas de tout ce qui est fantasmé, en fait, autour d'elle.
Muriel Decamps, sur cette fascination pour les jumeaux.
Oui, bah écoutez, moi je suis du côté des parents, donc effectivement la fascination, on la vit au quotidien et en fait nous c'est plus l'aspect logistique. En fait, on a deux enfants, nous on n'a pas des jumeaux avec toutes les images qui peuvent être autour. Donc c'est important de les élever voilà comme des enfants et pas comme des mythes et faut être vraiment dans le quotidien et les jumeaux c'est avant tout des enfants, deux êtres uniques qui ont vraiment des qualités différentes, une singularité. Et c'est chouette, c'est vraiment une super aventure de parents. Donc voilà.
Alors il existe deux catégories de jumeaux, les jumeaux dizygotes et les jumeaux monozygotes. Expliquez-nous la différence, Fabrice Bach.
Alors, la différence, effectivement, donc le commun des mortels, je vais m'exprimer ainsi, parle de vrais ou de faux jumeaux, ce qui est assez quand même désagréable à entendre pour les parents. Les jumeaux, donc dizygotes, ce sont deux œufs qui ont été fécondés et donc ils vont se développer en parallèle l'un à côté de l'autre. Donc qu'est-ce que l'on va retrouver ? Ben, ça va être des jumeaux qui peuvent être de même sexe ou de sexe différent. Par contre, en termes de ressemblance physique, elles seront très peu présentes. Les jumeaux homozygotes, c'est effectivement un œuf qui, à mon avis, va se scinder. Et on va retrouver globalement le même patrimoine génétique de part et d'autre. Et ce sont ceux qui fascinent le plus parce qu'effectivement, physiquement, ils vont se ressembler énormément.
Et les jumeaux monozygotes sont nettement moins nombreux.
Oui, tout à fait. On pourrait pratiquement considérer que c'est un petit peu, excusez-moi auprès des parents qui nous écoutent, mais un peu une anomalie de cet œuf qui se scinde à un moment donné. Ils sont effectivement moins nombreux. On sait aujourd'hui que aussi chez les jumeaux monozygotes, il y a plus de difficultés au niveau de la construction de leur identité, de leur personnalité, du fait d'avoir pratiquement un double à côté.
Il existe tout de même des différences, même infimes, chez les monozygotes.
Oui. Des études l'ont montré, des chercheurs français ou sur le plan génétique ont poussé des études assez loin et ont trouvé qu'il y a toujours des petites différences sur le plan génétique.
Isabelle Sudre.
Oui, tout à fait. Ne fût-ce que des tâches de naissance, par exemple. Les empreintes ne sont pas les mêmes, puisqu'elles sont liées au mouvement du bébé au cours de la vie intra-utérine. Et puis les personnalités sont très différentes.
Monique nous demande si les jumelles monozygotes sont dotées de personnalités identiques, Fabrice Bach.
Ah, alors, potentiellement, alors, la réponse du psy de base, oui et non. Voilà, comme ça.
Alors, psychologue très normand.
Voilà, tout à fait. Donc, en même temps, oui, il va y avoir des choses qui vont s'apparenter, bien entendu, puisque et se ressemblant énormément et se développant l'une à côté de l'autre, il va y avoir des éléments de similarité qui vont se présenter. Par contre, l'aspect éducationnel et parental va amener l'émergence de différences entre les enfants et l'identification de caractéristiques qui vont leur être propres. C'est ce qui est très important. Quand on voit effectivement parfois des jumeaux qui adultes se ressemblent énormément, ils vivent pratiquement tout de la même façon, là c'est quand même plus problématique.
Une idée reçue, Muriel Decamps voudrait que les jumeaux monozygotes aient des vies similaires.
C'est une idée reçue, effectivement. En fait, tout dépend effectivement des enfants. Enfin, ils peuvent avoir des vies assez identiques ou complètement différentes. Ils ont effectivement des personnalités différentes et du coup, ils ont en fait une certaine relation. On dit des fois qu'il y a le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Extérieur. Donc en fait, ils peuvent se répartir les rôles et avoir chacun des appétences pour des vies différentes. Et en fait, voilà, c'est vraiment une idée reçue. Ça dépend aussi un peu de l'éducation des parents qui va les contraindre un peu dans une voie ou au contraire les laisser plus libres, les laisser s'exprimer vraiment dans ce qu'ils ont d'unique. Donc non, il n'y a pas de règles.
Isabelle Subre.
Et puis même, je dirais que le rôle des parents est essentiel là, mais c'est celui de respecter chaque enfant pour ce qu'il est et de l'accompagner. Vous savez, souvent les futures mamans s'angoissent en se disant mais je vais jamais arriver à les reconnaître et puis comment je vais faire. Et puis je dis mais juste observez-les, grandissez avec eux, respectez ce qu'ils sont. Et même monozygotes, même très semblables parfois physiquement, ils ont vraiment, vous allez très vite voir des différences et en les accompagnant, vous les aidez à se développer eux-mêmes pour ce qu'ils sont.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment des différences, comme tu le disais à l'instant Isabelle, les prendre le temps de les observer, les regarder, on identifie toujours des petites nuances qui vont être là, qui peuvent d'ailleurs aussi servir ensuite lorsque les enfants sont scolarisés au corps enseignant. Combien de fois je dis aux parents, dites aux enseignants ce que vous constatez comme petites différences, parce qu'eux vont avoir peur de les confondre.
C'est ça.
Alors vous parliez de faux jumeaux, le philosophe Thibaut de Saint-Maurice, qui est chroniqueur dans cette émission, père de jumeaux, un garçon et une fille âgés de 11 ans, a écrit un SMS hier soir en me disant que l'expression faux jumeaux, pour parler des jumeaux dizygotes, était très malheureuse car cela induit une hiérarchie par rapport aux monozygotes. Et pour Thibaut de Saint-Maurice, l'anglais est plus malin, il distingue identical twins, qui veut dire jumeaux identiques, et fraternal twins, qui signifie jumeaux fraternels.
Exactement, ah oui, tout à fait. Il y a quelques années, une anecdote comme ça, une mère se promenait avec ses deux jumeaux, avec ses jumeaux, donc, et la spécificité, c'est que quand une mère se promenait avec ses enfants, très rapidement elle est arrêtée dans la rue, merci les smartphones, on prend des photos, etc. Et pour la énième fois, une femme s'arrête, oh, des jumeaux, c'est des vrais ou des faux? Et la mère la regarde et lui dit, non mais c'est des faux, je me promenais avec des poupées en plastique, il n'y a pas de souci. C'est extrêmement irritant pour les parents. Et vous l'avez très bien évoqué à l'instant, l'anglais établit une distinction très fine entre identical et fraternal, et je trouve ça c'est vraiment plus intéressant. Vrai, faux, mais même les jumeaux eux-mêmes ont du mal à admettre ça.
Évitons donc d'utiliser ces termes de vrai et de faux jumeaux. Allez, restez avec nous dans quelques instants, vous en saurez plus sur la supposée télépathie entre jumeaux ou sur l'idée que le jumeau qui naît en second est en réalité l'aîné. Ce sera juste après Police, So Lonely. Police, So Lonely.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h21 et on s'intéresse aux idées reçues sur les jumeaux. C'est l'occasion ce matin de mieux comprendre cette gémellité qui peut fasciner. Nos experts attendent toutes vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Muriel Decamp, je rappelle que vous êtes l'autrice de Jumeaux, la fascination du double. Vous évoquez une idée reçue dans votre livre. Les grossesses multiples sont-elles plus à risque? Est-ce que c'est une idée reçue, ça, Muriel Decamp?
Non, c'est malheureusement vrai. Je rassure tout de suite les futures mamans, ça peut très bien se passer, mais c'est quand même une grossesse qui doit être sous surveillance et il faut vraiment faire attention parce que si on arrive à la mener le plus loin possible, on va avoir des bébés en pleine forme et l'éducation et le quotidien derrière sera bien plus facilité et puis. Enfin, vraiment, il faut faire attention. Effectivement, il faut vraiment il y a une surveillance bien spécifique.
Isabelle Sudre, déléguée nationale à la Fédération Jumeaux et Plus. Comment rassurer les parents qui nous écoutent et qui seraient un peu inquiets par ce type de grossesse?
Alors c'est vrai, les grossesses multiples sont des grossesses à risque, mais elles demandent un accompagnement particulier que nous connaissons bien aujourd'hui. Notre comité scientifique a travaillé avec le Collège national des obstétriciens à ce qu'on appelle des recommandations de pratique clinique sur le suivi des grossesses gémellaires, c'est bien codifié. Donc nous recommandons déjà aux futurs parents de venir le plus tôt possible vers nos associations pour justement avoir cette information, être accompagné. Et puis quand on est suivi dans une maternité de type 2 avec un obstétricien habitué à suivre des grossesses gémellaires, ça se passe très bien dans 95% des cas.
Fabrice Bach, je rappelle que vous êtes psychologue et auteur du livre Jumeaux. Quels sont les bons réflexes à adopter pour les parents qui attendent des jumeaux?
Alors déjà, deux extrêmes à éviter. Le premier, c'est une sorte de banalisation, on verra quand ils seront là. Et puis, et l'autre extrême, d'aller chercher un trop plein d'informations. Mmh. Et comme le disait Isabelle, moi je trouve très intéressant que les parents, lorsqu'ils apprennent l'arrivée de jumeaux et leur famille qui va s'étendre, peut-être au-delà de ce qu'ils pouvaient penser, pouvoir se rapprocher de l'association régionale Jumeaux et Plus, qui fourmille de bénévoles qui font un travail de terrain extraordinaire sur demande des informations à donner, des rencontres, des petits conseils à donner et un accompagnement très terre à terre.
Dans votre livre, vous conseillez de réharmoniser le couple.
Tout à fait.
Vous préconisez une organisation militaire.
Ouais.
Et vous insistez sur le fait d'être à l'écoute, d'exprimer ses émotions, ouais, de respecter l'autre. Ouais. Réharmoniser le couple.
Oui, tout à fait. Puisque au départ, donc on est deux individus uniques, on se rencontre, on va former ce couple idéal que l'on se représente. Puis un jour, on apprend qu'on va avoir des enfants, c'est très bien. Puis on apprend que c'est des jumeaux. Et au-delà de toute la projection qu'on peut avoir, lorsque les enfants sont là, il peut y avoir la réactivation de tout un ensemble de problématiques initiales liées à ce qu'on appelle la création de la dyade initiale, du couple initial. Il faut être très vigilant par rapport à cela, puisque parfois les mères sont trop accaparées par leurs enfants, le père se sent mis de côté. Mmh. Et donc cela peut générer des difficultés de couple qui pour le coup ne devraient pas être là, parce qu'ils vont véritablement avoir besoin l'un de l'autre, père et mère, pour éduquer et accompagner leurs enfants, surtout dans les deux premières années de vie.
Et sur l'organisation militaire?
Ah oui. Alors souvent, quand des personnes entendent des parents jumeaux parler de ce qu'ils font avec leurs enfants, ils disent « Voilà, mais c'est impressionnant, chez vous tout est carré, etc. Mais toi, ton père était dans l'armée ou quoi que ce soit. » C'est nécessaire et vital. Je crois que personne ne peut se représenter le fait d'élever deux enfants du même âge. C'est pas simplement comme élever un frère ou une sœur, parce qu'il y a un aîné et un cadet. Là, ils sont identiques, ils sont le même âge, et donc ils vont faire les mêmes bêtises.
Général Isabelle Sudre, organisation militaire.
Moi, c'est mon mari qui est militaire en plus. Non, mais par contre, c'est vrai. Tout tient sur l'organisation. Et comme le dit Fabrice, c'est à la fois de la rigueur, mais c'est aussi savoir se réorganiser sans arrêt dans cette organisation. C'est-à-dire avoir la rigueur, mais aussi la souplesse d'esprit de se dire, bon, ben là, j'ai fait comme ça, ça fonctionne pas, parce qu'avec deux bébés, c'est pas toujours nous qui décidons, et même deux petits enfants. Mais c'est pas grave. On se réorganise, on retombe sur nos pattes, et on tente autre chose. Et quand on a à la fois la rigueur et cette souplesse d'esprit, ça fonctionne.
Muriel Decamp?
Oui, effectivement, il faut être organisé, puis il faut aussi laisser la place aux autres, se laisser aider aussi par les grands-parents, les amis, laisser un peu les enfants souffler, essayer de profiter quand même, puisque c'est vrai que c'est assez le quotidien avec deux enfants, voire trois. C'est vraiment, toutes les deux heures, s'il faut des biberons, enfin voilà, c'est vraiment très très prenant, très très physique. Mais néanmoins, on reste des parents, on reste d'un couple. Comme vous le disiez, Fabrice, il faut vraiment arriver à se ménager des moments pour nous. Et voilà, pas hésiter à faire appel à l'entourage et effectivement aux associations Jumeaux et Plus, aller à la rencontre d'autres familles qui vivent la même chose que nous, avec nos enfants, voilà, participer à des activités qui sont proposées par les associations locales. Ça fait vraiment un bien fou parce qu'on se retrouve avec des gens qui vivent la même chose que nous. Et c'est vraiment super. Voilà.
Et nous accueillons Fabien. Bienvenue Fabien.
Oui, bonjour.
Alors vous nous l'avez dit au standard, né en 1974, vous êtes jumeau monozygote, et parfois on vous a pris pour une attraction de foire. Hein.
Oui, alors j'écoute avec attention votre émission, parce que j'en ai entendu des verres et des pommures depuis que je suis né sur les jumeaux. Donc je voulais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire. Moi, ma mère avait, à l'époque, ma sœur, quand on est né, elle avait 15 mois. Mm-hmm. C'était l'époque des couches lavables, mère, vous voyez. Donc si vous voulez, elle s'en est très bien sortie, et je vous explique un peu la relation que j'avais avec mon frère. Donc ça s'est très bien passé. Mais effectivement, moi j'avais le sentiment parce qu'à l'époque, en 74, il y avait très très peu, en tout cas, de jumeaux, puisqu'il y avait pas les filles, enfin, c'est comme ça que j'ai compris par la suite. Et donc, moi, j'étais l'attraction, enfin, avec mon frère, dans une ville quand même assez importante, et on était toujours montré du doigt, donc on comprenait pas pourquoi, parce que ce que j'expliquais à votre collègue, c'est que pour nous, quand on se regardait dans la glace, on se demandait pourquoi les gens nous prenaient pour des jumeaux, alors qu'on avait l'impression de pas du tout se ressembler. Ce qui peut vous paraître bizarre, mais c'est vrai.
Et les invités acquiescent ça dans le studio.
C'est ça. Hein. Mes fils me disent pareil, figurez-vous. Ils me disent, mais je comprends pas, on a pourtant pas la même tête.
C'est exactement ça. Et par contre, la recherche d'identité, elle va se poursuivre dans le temps, parce qu'après, vous comprenez. Forcément, on grandit, donc on comprend plusieurs choses. Mais par contre, moi, je voulais témoigner sur notamment la relation qui a été extrêmement forte. Mmh. Et moi, le conseil que je donnerais à tous ces parents, c'est de laisser le choix, parce que j'ai connu après, j'ai des amis aussi qui sont jumeaux, et toutes les relations sont différentes. Nous, elle a été exacerbée. On était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On avait la même chambre. On a dormi dans le même lit pendant très longtemps. Et on a très bien vécu. Par contre, on a décidé au collège de vouloir changer d'avis, et c'est ma mère qui tenait, parce que les jumeaux, vous voyez, il fallait être habillé pareil, elle nous a entendus, et comme ça, on doublait notre garde-robe. Vous voyez, nous, c'était plutôt la stratégie, et différent. Par contre, on a toujours voulu et souhaité rester dans la même classe, mais on n'était jamais l'un à côté de l'autre. Mais ce qu'il faut que les parents comprennent et entendent, c'est que lorsque j'entendais effectivement les bêtises, on va faire les mêmes, c'est vrai. Mais par contre, il y a une solidarité que vous ne pourrez jamais toucher. C'est-à-dire que moi, je rentrais parfois, mon frère a essayé une bêtise, mon père me prenait à part parce qu'il savait très bien que j'allais défendre mon frère. Eh bien, résultat des courses, je ne sortais rien parce que je pressentais que mon frère a fait une bêtise et je prenais la punition autant que la sienne. Mais parce que c'était après on réglait nos comptes, hein. Mais par contre, devant les gens, c'était impossible. Et à l'extérieur, les gens, même nos copains, parce que quand on joue au foot, penser qu'on s'entendait pas du tout, on jouait toujours l'un contre l'autre, hein, alors qu'on était cul et chemise une fois qu'on rentrait à deux.
Très joli témoignage hein, de Fabien, ouais. Isabelle Suman.
Oui, c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous vivez chez moi, Fabien.
C'est pareil avec vos jumeaux.
Oui, tout à fait. À 17 ans, c'est tout à fait ça. Vous touchez le cheveu d'un, c'est l'autre qui réagit. Ouais. Je passe aussi en tant que maman derrière, tout doucement, en disant, en fait, tu es sûre là, la petite copine de... Non, mais c'est comment? Parce que j'ai l'impression que... Et là, de petite copine, mais enfin, il n'y en a pas. Sauf que, ouais, bon, d'accord, ok. Voilà.
Merci beaucoup, Fabien, d'avoir témoigné ce matin. J'aimerais qu'on aborde l'idée selon laquelle les jumeaux seraient de plus en plus nombreux. Assiste-t-on vraiment à une forte augmentation du taux de gémellité depuis une quarantaine d'années, Fabrice Bach ?
Oui, avec l'apparition des PMA, ça fait en 80, exactement, il y a eu une entre guillemets explosion du nombre de naissances gémellaires.
Expliquez-nous pourquoi. Alors, techniquement entre guillemets. Alors,
techniquement, mais effectivement, la PMA vise à implanter donc une ovule fécondée pour pouvoir ensuite se développer dans le ventre de la mère, pour être sûr, on va implanter plusieurs ovules pour être sûr qu'à un moment donné, il y a des enfants. Donc les grossesses multiples se sont généralisées, multipliées. Maintenant, les choses sont beaucoup plus calibrées. Maintenant, oui, il y a de plus en plus de jumeaux, ce qui se trouve assez plutôt intéressant.
Mais jumeaux dizygotes. Hein.
Dizygotes, tout à fait.
Parce que le nombre de jumeaux et jumelles monozygotes reste stable.
Oui, c'est ça qui est assez surprenant, il reste assez stable.
Et l'augmentation, c'est surtout au niveau mondial, en fait. Voilà. Hein. Parce qu'en France, depuis 2-3 ans, ans, on est plutôt sur une stabilisation du nombre, comme dans les pays d'Europe du Nord. Hein, alors qu'en Afrique, on est toujours sur des... l'Inde, l'Afrique et l'Inde seront les continents des jumeaux encore sur les dizaines d'années à venir. Là.
Alors, est-il vrai que le deuxième né, le second né, était en réalité l'aîné? Ça, je l'entends depuis que je suis tout petit. Pourquoi cette idée persiste dans l'inconscient collectif, Muriel Decamps?
Écoutez, effectivement, on a toujours dit que l'aîné des jumeaux... En fait, il semblerait qu'il soit en dessous, en fait, donc il sort le premier, sauf que c'est effectivement pas du tout le cas. Hein. Donc l'aîné, ça veut dire le premier né, point. Mmh. Et les jumeaux dans le ventre, ils sont côte à côte, donc ça peut être un ou l'autre qui va sortir en premier. Ouais. En fait, on relaie l'aîné avec la conception, ce qui n'est pas le cas, puisque aîné veut vraiment dire premier né. Point.
Ouais. En fait, effectivement, il y a 200 ans, 300 ans de ça, c'était extrêmement important, puisque le premier né avait accès à tout dans les héritages familiaux, et l'autre, bon, il payait une charge de quoi que ce soit. Aujourd'hui, je pense que ce ne sont plus véritablement des questions importantes, mais qui restent, comme vous le disiez très bien, dans l'inconscient collectif, comme la transmission de pensée, ce genre
de choses. On y reviendra tout à l'heure. Quelles sont les étapes du développement des jumeaux? Sont-elles les mêmes que chez les autres enfants? Est-ce que c'est un développement spécifique? Il y a la fusion gémellaire, j'ai repéré ça dans vos écrits, la complémentarité, la première phase d'autonomie vers 6 ans et la seconde phase d'autonomie à l'adolescence. Est-ce qu'on peut revenir à grands traits sur
ces différentes étapes? Alors, effectivement, les jumeaux ont des étapes spécifiques qui participent de leur développement, qu'on a pu établir il y a maintenant quelques années avec beaucoup de S à quelques. Et donc ces étapes, donc on en a quatre. Une première étape dite de fusion gémellaire, qui correspond à la nécessité vitale des parents de les unifier en une entité pour pouvoir s'occuper d'eux. Avoir des bébés qui pleurent et considérer chacun des enfants comme étant à l'origine d'une demande spécifique et très complexe. Donc on va les unifier, on va les changer tous les deux, on va les nourrir tous les deux. À partir de 2 ans, lorsqu'ils commencent à envahir leur environnement, ils vont entrer dans une phase de complémentarité. Les parents vont commencer à les dissocier, à leur attribuer des caractéristiques spécifiques qui leur appartiennent. Souvent d'ailleurs, ils ne s'en rendent pas compte, mais ce sont des caractéristiques donc complémentaires. Quand vous prenez les deux caractéristiques, vous avez un individu entier. Puis, tout doucement, aux alentours de 6-7 ans, première phase d'autonomie, avec cette nécessité d'une scolarisation, de développer son propre réseau relationnel, les enfants vont vraiment être caractérisés avec leurs propres compétences. Deuxième phase d'autonomie, une révolution, bien sûr, c'est aussi une crise d'adolescence, un peu plus complexe au niveau de la gémellité que chez l'adolescent singleton.
Pourquoi? Singleton, c'est un enfant seul.
Voilà, tout à fait. En fait, donc, la principale différence, c'est qu'ils vont traverser la même crise d'adolescence comme les autres, une crise identitaire, le corps change, qu'est-ce qui est en train de se passer, une crise pulsionnelle, brusquement apparaît dans la pensée un truc qui s'appelle la libido qui n'était pas là avant, une crise d'autorité vis-à-vis des parents, l'ado c'est toujours ce qui est bon pour lui, nous parents on comprend jamais rien, mais les jumeaux vont devoir aussi avoir une quatrième crise qui est celle de la redéfinition du lien qui va les unir, proximité et éloignement.
Bonjour Nicolas Christian.
Bonjour.
Vous êtes père de jumeaux, un garçon et une fille de 3 ans. Oui. Comment avez-vous abordé la naissance de vos jumeaux?
Assez différemment de ma compagne qui l'avait bizarrement pas très bien pris. Mm-hmm. Et moi, j'étais assez enthousiaste. En plus, le fait de savoir que c'était un garçon et une fille, ça a vraiment augmenté... l'envie de commencer de les rencontrer et de s'en occuper, donc avec beaucoup de crainte mais beaucoup d'enthousiasme aussi.
Comment se déroule le quotidien quand on est père de jumeaux de 3 ans?
C'est tout à l'heure j'entendais un de vos experts parler, c'est vrai que c'est très physique, ça demande beaucoup d'implication. On peut pas je pense pour que ça fonctionne en tout cas en tant que père de jumeaux, on peut pas ne pas être impliqué. Il faut l'être, et en plus de toute façon, le fait qu'il y ait deux enfants, par défaut, quelque part, on est impliqué. C'est-à-dire que si avec un enfant, la mère pourrait éventuellement s'en occuper et nous on pourrait être là un peu les bras croisés, mais il y en a toujours un autre. Donc on n'est jamais laissé quelque part à l'abandon, il y a toujours un enfant dont il faut s'occuper.
On peut donc dire, Nicolas Christian, que la charge mentale est également répartie.
Alors également
Quasi. Non, oula, voilà, mais les invités en studio font un signe des mains qui veut dire ouais, ouais, bon.
Faut voir.
Faut voir. Isabelle Sudre. Isabelle Sudre.
Non, non. Je vais être très respectueuse. J'ai un mari fabuleux qui est vraiment oui. très présent, d'autant plus que j'en ai quatre. Hein, donc, quatre enfants. Mais par contre, c'est vrai que c'est un vrai travail d'équipe. Ouais. Clairement, Nicolas a raison. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment être présent tous les deux et être actif tous les deux. Et voilà.
Fabrice, ouais, ouais. ça, on le voit. Hein. À un moment donné, les couples qui peuvent dysfonctionner, c'est quand pour différentes raisons. Là, c'est pas le cas pour les pères dont on parle, mais certains peuvent fuir un peu le champ de bataille. Et là, ça va générer beaucoup de problèmes. La mère a besoin du soutien de son conjoint, qui n'est pas qu'un père de jumeaux, est aussi le conjoint. Il faut pouvoir trouver la bonne harmonisation des deux positions.
Vous aviez une question, Nicolas Christian, à poser à nos experts.
Oui, j'avais une question. Est-ce qu'il est illusoire, en tant que parent de jumeaux, de vouloir les traiter, les aimer de façon strictement équitable et égale.
Alors, c'est un idéal très louable, bien entendu, mais il y aura toujours des différences, et fort heureusement. Maintenant, j'aurais envie de dire, c'est véritablement en tendant vers cet idéal, on va essayer de faire comme. Les différences seront là, on va les accepter. Il faut surtout pas le nier. Et m'est arrivé de voir effectivement des parents qui, pour différentes raisons, avaient souhaité totalement dégéméliser. Ce terme est absolument abominable.
Dégéméliser.
Ouais, il avait été créé dans les années 70 par un psychologue qui s'appelait René Zazo, qui avait écrit effectivement un certain nombre d'ouvrages sur la gémélité, dont un, Le jumeau, le couple et la personne, qui a été une référence. Et en fait, il parlait de dégémélisation, puisqu'il lui s'intéressait à cet esprit de fusion qui pouvait être problématique. On ne peut pas dégéméliser, ça n'existe pas. Ce lien, il naissent avec, il les accompagnera toute leur vie.
Isabelle Sudre.
Oui, tout à fait. Et puis, au contraire, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire, tu le dis assez, Fabrice, de cette gémellité une force. Parce que c'est une... Alors, certes, ce n'est pas toujours facile à vivre. Mmh. Certes, pour la famille, c'est aussi quelque chose qu'il faut dompter, je dirais, mais toujours en la respectant. Mais pour les enfants, ça doit être une force, c'est une émulation, c'est... Enfin, voilà.
Merci beaucoup, Nicolas Christian, de nous avoir appelé ce matin. Tiens, écoutons Grishka Bogdanov.
Non, là, on n'est pas biais pas, mais on était quand même très très longtemps, entre 3 ans, même avant. Je pense qu'effectivement, on était habillés pareil longtemps. Mais à un moment, c'est nous qui avons pris la décision de nous différencier. C'est très amusant d'être habillé pareil. C'est pas du tout d'ailleurs un thème de dispute. On s'est jamais dit « mettez habillé pareil, il faut absolument que je... » Ça nous gênait pas. Mais c'est devenu à un moment... une attraction tellement forte, et effectivement, on était, quand on passait dans la rue, évidemment, on était tout le temps photographié. En plus, on avait des cheveux très longs qui tombaient comme ça, donc on était un peu extraterrestre, et du coup, ça nous a mis un peu dans le projecteur, et à un moment, on s'est dit, si, voyons ce qui se passe, si on s'habille plus pareil, est-ce qu'on sera autant photographié et suivi dans la rue, et finalement, on a constaté que c'était moi. Donc, on a commencé à jouer de cette autonomie.
Grishka Bogdanov sur France Inter en 2004, les frères Bogdanov qui ont contribuer à la fascination du grand public pour la gémellité.
Tout à fait, oui, complètement. Déjà, quand ils ont lancé leur émission Temps X, première émission sur le fantastique à la télé française, avec ces deux jeunes plutôt sympas, voilà, et habillés de la même façon de leur combinaison, c'est vrai que ça renvoyait quelque chose qui faisait appel à cet imaginaire gémellaire dans la société. Ils en ont fait une force, ils en ont fait une carrière, une vie. D'autres l'ont fait d'une façon un peu différente, par exemple les frères Pourcel, cuisiniers de renom, les frères Cohen, réalisateurs. Donc on peut être dans un lien jumellaire très proche avec son co-jumeau et en faire une force dans le sens de produire et créer quelque chose.
Faut-il habiller les jumeaux de la même façon? Et si oui, jusqu'à quel âge? Qu'est-ce que vous préconisez, Fabrice Bach?
Alors, quand ils sont tout petits, vu le nombre de lessives, il peut arriver que les enfants soient habillés de la même façon. Ça n'est pas grave. Par contre, lorsqu'ils grandissent, bien évidemment, on va leur attribuer des vêtements différents. Ce qui n'empêche pas que l'un voudra les vêtements de l'autre réciproquement, ce qui va donner un certain nombre de situations de chamaillage, de bagarre. Mais c'est très important aussi de pouvoir leur attribuer leur propre identité à travers les vêtements qui sont les leurs.
Oui, et puis même pour les parents, très honnêtement, on parlait tout à l'heure de l'angoisse des parents, justement, à reconnaître, être capable de reconnaître leur bébé. C'est surtout bébé que ça se produit. Mais imaginez des jumeaux monozygotes, et je me rappelle bien des miens, et je sais que j'en que j'en vois, habillés de la même manière, mais là, pour le coup, vous compliquez votre vie, mais considérablement. Ah ouais. Et puis moi, à titre personnel, j'aurais la sensation, quelque part, de pas respecter leur personnalité, parce que même bébé, ils ont déjà leur personnalité.
Ouais. Et tiens, justement, Henri nous demande si il n'est pas difficile d'être constamment ramené à sa gémellité quand on vous appelle constamment les jumeaux, les jumelles, comme s'ils formaient un seul bloc.
Oui, tout à fait. Alors là, j'ai une anecdote extraordinaire. Un de mes patients me disait un jour systématiquement à l'école, c'était ça fait quoi d'être jumeau? Alors c'est quoi d'être jumeau? Et un jour, il en a eu marre, il s'est retourné, il fait ça fait quoi d'être tout seul? Voilà. Ouais. Parce que c'est effectivement, on les ramène toujours sur cette caractéristique, mais ils ne sont pas que ça. Ce sont des individus avec ce lien de la gémellité.
Plutôt que de dire les jumeaux à table, on dit constant et constance à table.
Ouais, ou les garçons, ou enfin voilà.
Mais, oui, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pris ces deux prénoms. Tiens, balayons avant d'écouter la chronique de Gonelle Boulet, balayons une bonne fois pour toutes cette idée que les jumeaux seraient capables de communiquer entre eux grâce à la télépathie ou grâce à un langage secret. Ils seraient les jumeaux des extraterrestres, l'image des frères Bogdanov, s'ils étaient doués de télépathie. Sur cette idée reçue,
Alors, sur cette notion de télépathie, etc., un certain nombre d'études ont été faites, rien n'a jamais été prouvé scientifiquement, bien entendu. La CIA avait fait un certain nombre d'études sur cette question dans les années 60, l'objectif étant d'envoyer un des jumeaux dans le bloc soviétique, l'autre de l'autre côté, non, ça n'a rien donné de spécifique. Par contre, ça participe de l'imaginaire gémellaire, et moi j'ai eu des jumeaux en consultation qui m'ont expliqué que lorsqu'ils étaient ados, etc., raconter un petit peu ce genre d'histoire, ça participait du mythe. Sachant que ça n'était pas vrai.
Et sur le langage secret ?
Alors, au niveau du langage secret, alors c'est pas véritablement un langage secret, c'est ce qu'on appelle le langage cryptophasique, qui avait été décrit par René Zazzau.
Donc, le psychologue que vous avez cité tout à l'heure.
Tout à fait. Et donc, c'est un langage spécifique qui se développait entre eux. Alors, si ça arrive, ça peut être très problématique, parce que c'est un lien de fusion complet des deux enfants, l'un vis-à-vis de l'autre. Et en fait, à l'origine, c'était deux chercheurs russes, Yuri et Ludovitch, qui avaient identifié dans une contrée reculée d'Ukraine, deux jumeaux, qui étaient restés ensemble en permanence et qui avaient développé tout un langage entre eux, avec une syntaxe, des verbes, des mots, etc. Donc ils avaient appelé ça hydroclosia. Et Zazzau avait repris ça en disant, langage cryptophasique, ce qu'on sait aujourd'hui, il va y avoir des petits mots qui apparaissent, qui peuvent être la caractérisation du lien en prenant, par exemple, la première syllabe de chacun des prénoms.
Langage secret chez vos jumeaux, Isabelle
Sudre ?
Non,
puis je pense qu'aujourd'hui, avec toute l'information qu'ont les parents, justement, et c'est tout le travail qu'on fait avec eux, le fait de parler avec chaque enfant et de le considérer comme un enfant en tant que tel, permet d'éviter justement de rentrer dans cette dérive.
10h43, il est l'heure de retrouver Ma vie de parent de Gonelle Boulet.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Alors, Gonelle Boulet, faute de nous parler de jumeaux, vous avez décidé d'aborder la rivalité et la compétition entre parents.
Et tout à fait, Ali. Je ne sais pas si dans le domaine sportif, les Français excellent toujours en compétition. Mais s'il y a un domaine dans lequel je pense que nous sommes très très bons, c'est celui de la compète entre parents. Alors, je dis les Français, j'aurais pu... Peut-être que les Indiens, les Chiliens, les Burkinabés excellent aussi dans cette discipline. Mais comme j'en sais rien, je vais rester sur un terrain que je connais.
Alors, en quoi consiste cette compétition parentale entre parents ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sport aux règles un peu faussées. Parce que en apparence... Tous les parents font partie de la même équipe, c'est la team parents, quoi. On se réjouit à l'annonce d'une prochaine naissance chez les amis, on les félicite, on leur apporte des petits cadeaux. La team est censée s'aider, se supporter, gagner ensemble. Sauf qu'en général, à peine le jeu commençait, ça se complique un peu.
Les règles changent ?
Disons que chez les filles, par exemple, on observe très tôt des petites percées mine de rien du type « Ah ouais, tu bois quand même un verre de vin alors que t'es enceinte ? T'as pensé à réserver ta place dans la super maternité truc muche ? Non, parce que ailleurs, non mais c'est l'usine quoi. Et sinon, vous faites de l'aptonomie ? Ah, vous en faites pas, c'est dommage, c'est tellement bon pour le bébé, pour la relation avec le papa. » Voilà, donc très tôt, il faut savoir que ce qui, a priori, vous regarde, vous et votre couple, regarde en fait tout le monde. Voilà, c'est une règle assez agaçante, mais à très vite intégrer si on veut garder le moral dans le métier.
Et quand les enfants grandissent, eh bien ça ne s'améliore pas.
Ah non, c'est de pire en pire. Alors les premiers mois, c'est le décathlon de la comparaison, avec des épreuves telles que, alors, celui qui dort le mieux. Ah ouais, elle dort pas. Écoute, nous les quatre, ils ont fait leur nuit, mais tout de suite. Celui qui pleure le moins. Écoute, nous on a tiré le bon numéro, il pleure jamais. Ok. Celui qui veut pas de sa tétine. Ah, écoute, nous la tétine, on est contre. De toute façon, il prend son pouce, c'est plus naturel. Ok. Il y a aussi les jugements du type « Ah bon, tu donnes le biberon ? Oh, le lait maternel, c'est tellement meilleur pour le bébé. » Ou au contraire, « Quoi ? Tu donnes le sein, mais du coup, t'es complètement esclave de ton enfant. » Si, si, je l'ai eu, celle-là.
Et si on continue ?
Ah ben alors, quelques mois plus tard, vous avez bien sûr le « À quel âge il a marché ?»« Ah, 18 mois. » Bah écoute, nous, à 10 mois, il était debout. Hein. C'est fou, hein ? Et puis, si on avance encore un peu, on passe à la catégorie « Poids moyen » avec l'entrée à l'école. Alors là, dès la moyenne section, on peut assister à des jolis. Bah écoute, nous, tu sais, pff, comme il sait déjà lire et multiplier, bah du coup, qu'est-ce que tu veux, il s'ennuie à l'école. Hein. Pas le tien ? Bah non, non, non. Bon, globalement, l'école devient ensuite le terrain de compétition principale. Hein. Alors avec au choix, dans le panier, alors bon, bah nous, on l'a mis à l'école Montessori, bon, ou bilingue, ou ce que vous voulez de différent, hein, parce que vraiment, on veut le meilleur pour elle. J'adore cette phrase, on veut le meilleur pour elle. Bah ouais, parce que nous, justement, on s'est dit qu'on allait choisir le pire, quoi. Bah, ou à l'inverse, ah ben nous, quoi qu'il arrive, hein, il ira au collège REP du coin, hein, parce que les parents qui les mettent dans le privé, vraiment, c'est trop traître, quoi. Tu trouves pas ? Ouais. Bon, voilà. Alors voilà, je sais pas pourquoi nous sommes si nombreux à pratiquer ce sport avec passion, et je dis nous parce que forcément, je m'inclus avec lucidité dans ce vaste club. Aurions-nous donc tant besoin de nous rassurer sur le fait que nous sommes de bons parents ? Je le crois, en effet. Et pourtant, j'ai l'impression qu'à ce jeu, nous sommes tous perdants et que cela pèse un petit peu sur notre morale à tous, non ? Alors, je vous propose un petit changement de règle. La prochaine fois que nous croisons un autre parent, tenons juste un petit « comment ça va ?» et puis écoutons, compatissons, faisons appel à notre réserve d'empathie. Et qui sait, nous irons peut-être ainsi tous ensemble sur le podium, et ça, ce serait une belle victoire collective.
Et je sens, Isabelle Sudre, que ça vous a parlé, cette chronique.
Ça se voit tant que ça.
Oui, ça s'est vu, et ça s'est entendu. Ma vie de parent, hein, qui parle à beaucoup, hein, je sens, hein, ce matin.
J'espère.
Une chronique à partager et à réécouter sur l'appli et sur le site de France Inter. Bah tiens, dans quelques instants, vous verrez si élever des jumeaux coûte plus cher, et s'ils sont condamnés à vivre le même destin. Ce sera juste après Juliette Armanet et Sébastien qui interprètent Vertigo.
Non, me regarde pas dans les yeux. Je veux pas que tu vois que j'y vois que toi dans les deux. Que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche. Mine de rien je tiens pas bien sûr.
Armanet et Sébastien interprétaient Vertigo.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
11h10 et on s'intéresse aux idées reçues sur les jumeaux. L'occasion ce matin de mieux comprendre cette gémellité qui fascine. Nos experts attendent toutes vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.
Phoebe, tu veux dire que vous avez des difficultés à vous entendre ?
Oh, en fait, ce ne sont que des bêtises entre sœurs. C'est vrai, mais enfin, les gens disaient toujours que c'était elle la plus jolie. Tu vois le genre ? Ah oui, puis il y a aussi le fait qu'elle a été la première à marcher. Même si moi aussi j'y suis arrivée. Dans la soirée, le même jour. Mais pour mes parents, à l'époque, l'exploit avait déjà été accompli par l'autre.
Extrait de la série Friends. Tiens, que faire quand un jumeau souffre de la comparaison avec son autre jumeau, son autre jumelle, ouais. Fabrice Bach, je rappelle que vous êtes psychologue.
Alors là, le positionnement central, c'est celui des parents, qui sont là pour justement rétablir cet équilibre, en espérant bien sûr que ce ne soit pas les parents qui aient mis en place ce système de comparaison, dans le sens d'un jumeau qui serait tout gentil et l'autre tout méchant. Ça serait quand même assez problématique. Maintenant, la société peut le renvoyer en cherchant à les distinguer. Je crois que c'est aux parents, justement, de se positionner et de ramener que chacun a ses qualités, chacun aussi ses défauts, et qu'on va plutôt les aider à se développer l'un à côté de l'autre.
Isabelle Sudre, déléguée nationale de la Fédération Jumeaux et Plus.
Oui, nous accompagnons vraiment les parents là-dessus, mais très très tôt, hein, même pendant la grossesse, pour vraiment leur inculquer le fait qu'on ne va pas comparer les enfants. Ce sont deux enfants en tant que tels, différents, avec leurs forces, leurs faiblesses. Et c'est, je dirais presque, alors les parents, je pense qu'on arrive à faire ce travail assez bien avec eux, puis sur la durée. C'est au niveau des grands-parents, des familles un peu plus éloignées, que c'est un petit peu plus difficile de faire passer le message. Mais c'est la clé de la réussite, quoi. Enfin, il n'est pas question de comparer deux enfants l'un à l'autre, et voilà.
Une idée reçue, Muriel Decan, voudrait que les jumeaux vivent une relation fusionnelle.
Alors, écoutez, il y a des jumeaux qui vivent une relation fusionnelle, mais je pense que ça dépend effectivement de l'éducation des parents. Hein, on en a parlé depuis le début. Ils ont beaucoup, beaucoup évolué, et heureusement, depuis 20 ans, avec justement les associations Jumeaux et Plus qui font passer de gros messages aux parents. On les élève plus comme on les élevait avant. Alors ça a un côté pratique de se dire, ben hop, je les mets dans le même paquet, je leur fais faire les mêmes activités, je fais la même chose, je les laisse tout le temps ensemble. Mais on voit très bien les limites, et les enfants ont besoin d'avoir chacun leur espace. Donc il y a des relations fusionnelles, effectivement, il peut y en avoir, mais c'est pas la règle. Et c'est vraiment notre rôle de parents de les aider à s'épanouir l'un et l'autre, de passer du temps avec un enfant tout seul. C'est bien aussi de trouver des moments, voilà, où on va aller vivre des choses avec chaque enfant. Ça va leur permettre de s'épanouir. Il y a des situations où les jumeaux n'ont jamais été séparés, et quand la vie les sépare pour des raisons X ou Y, c'est un véritable drame à vivre pour eux. Donc la gémellité doit vraiment rester effectivement une force, c'est vraiment une belle chose, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont pour eux, une force qui va les aider dans la vie, et ça doit rester une force et pas quelque chose de douloureux. Et la fusion, ça peut vraiment être quelque chose de tragique s'ils sont séparés de force. Donc c'est notre rôle de parents, je pense, de bien les préparer à vivre une belle gémellité.
Sur la séparation, Fabrice Bach, il existe grosso modo, schématiquement, deux grandes écoles.
Oui, tout à fait.
Il y a l'école qui veut il faut séparer les enfants le plus tôt possible.
Le plus tôt possible, immédiatement. Et là, la réponse aujourd'hui est de dire non, puisque dans l'étape dite de fusion gémellaire, ils ont besoin l'un de l'autre pour se développer, comme dans celle de complémentarité. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le contexte de la séparation des enfants, on va commencer à parler avec eux de la séparation aux alentours de 7-8 ans, et on va avoir jusqu'à la fin du primaire pour la mettre en place. Après, au collège, suivant les options, voilà des choses qui pourraient se positionner. Mais en tout cas, une séparation n'est jamais imposée. Elle doit être discutée avec les enfants. Et là, pour nos auditeurs, sachez que lorsque l'un dira oui, je suis d'accord, l'autre dira non. C'est classique. Donc, tant que les deux ne sont pas d'accord, vous allez revenir sur cette question régulièrement, et ça s'inscrit dans la temporalité. Et une fois qu'ils l'ont intégré, c'est extraordinaire.
Anita nous écrit « Je suis jumelle et je ne vois plus ma sœur depuis 25 ans. Elle a essayé de détruire ma famille car elle n'a jamais accepté que je la quitte, car je voulais être un individu unique. 10 ans de psychanalyse pour m'en sortir. »
Voilà, ça c'est triste, malheureusement, ça arrive. On parlait de cette fusion à un moment donné. Voilà, on a cet idéal de la fusion ou d'un rapport dominant-dominé où tout irait bien faux. Les deux jumeaux souffrent, et je trouvais que ce témoignage très touchant et très regrettable, puisque là, pour le coup, la gémellité n'est plus une force, devient un handicap, et là, c'est problématique.
Bonjour Martine, bienvenue.
Bonjour.
Quel est votre témoignage, Martine ?
Alors moi, c'est plutôt une souffrance, la jumélité. Mmh. Voilà, donc ma jumelle a développé beaucoup de jalousie à mon égard. Mmh. Elle était plus grande aussi, on est des fausses jumelles, voilà, mmh. si on peut dire. Et moi, j'ai souffert énormément toute ma scolarité parce que j'avais ma jumelle dans ma classe qui, en plus... répéter tout ce qui se passait.
Oula.
En école primaire, ma mère était enseignante, donc les collègues aussi venaient dire ce qu'il y avait. Donc c'était encore des sujets supplémentaires à la domination de ma sœur. Moi, j'avais pas du tout envie de m'épanouir dans l'école, en fait, puisque on était tout le temps en compétition. Et voilà, donc j'avais pas envie de faire d'efforts par rapport à ça. Et ce que je pouvais développer en dehors n'était pas vraiment mis en valeur. Plus tard, je suis devenue enseignante en maternelle et j'ai vraiment fait en sorte de convaincre les parents de laisser chaque enfant dans une classe différente dès la maternelle pour qu'il puisse avoir ses propres amis, sa propre maîtresse, raconter sa journée différemment de celle de l'autre et qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre, qui prenne la parole sur l'autre. Et qu'ils aient chacun des choses à dire et à exprimer.
Votre regard, Fabrice Bach.
Alors, je trouve que ce témoignage est très intéressant parce qu'il montre à quel point, effectivement, parfois la jumélité peut être un poids de comparaison entre un jumeau dominant et dominé. Et c'est là tout l'impact central, sans pour autant les culpabiliser dans cette situation qui vient d'être évoquée, des parents, de pouvoir avoir ce rôle de médiateur et de rééquilibrage des enfants. Parce que lorsque ça n'est pas fait, ça peut induire beaucoup de choses, jusqu'à effectivement prendre ce choix de dire on va séparer les enfants dès la maternelle.
C'est une idée reçue qu'il y a un dominant et un dominé. Alors, les choses sont quand même plus fines que ça.
Oui, elles sont plus fines. Oui, ce rapport existe, mais il fluctue.
Il fluctue.
C'est ça qui est intéressant. C'est lorsqu'il se fige que c'est problématique.
Merci beaucoup, Martine, de nous avoir appelé. Tiens, une dernière question au général Isabelle Sudre, général d'une famille de 4 enfants.
Non, mais plus
sûr,
on va me poursuivre.
Alors, est-ce
vous serez responsable.
Éduquer des jumeaux coûte plus cher.
Oui, ça par contre.
Parce que beaucoup de parents sont inquiets à l'annonce de la gémellité, sont inquiets par le coût financier de la gémellité.
Tout à fait. Ça fait partie des angoisses des parents et qui sont bien réelles. Et c'est aussi pour ça que les associations Jumeaux et Plus sont utiles. Parce que c'est vrai qu'une poussette double, ça coûte très cher, beaucoup plus cher. C'est pour ça que les associations en mettent à disposition des familles pour leur éviter cette charge-là. C'est vrai que multiplier les couches par 2, par 3, c'est forcément un budget important. Donc nous intervenons à ce niveau-là aussi. C'est vrai que plus tard, payer des études à 2 enfants en même temps, qu'on va veiller à mettre dans des appartements différents et parfois dans des villes différentes pour qu'ils puissent se développer à leur rythme, et ben forcément ça coûte très cher, donc voilà.
Et pas d'aide spécifique ?
Pour l'instant non, au niveau des études, et nous travaillons énormément là-dessus, nous rencontrons les pouvoirs publics très régulièrement pour défendre la cause des parents de jumeaux. Oui.
Pour conclure en quelques mots, Fabrice Bach, les jumeaux, les jumelles ne sont pas, n'auront pas forcément le même destin.
Non, fort heureusement. Après, c'est comment effectivement la relation gémellaire se sera développée entre eux, comment les parents les auront accompagnés, à la fois en tant qu'enfants, en tant qu'adolescents, mais surtout comment ils auront aidé leurs enfants aussi à se confronter au regard de la société. Donc, peuvent avoir chacun leur vie, chacun. Par contre, ils restent l'un et l'autre le partenaire privilégié.
Merci beaucoup Fabrice Bach. Je recommande vraiment votre livre Jumeaux, 25 histoires pour faire de la gémellité une force, avec des illustrations de Léonie Després, et c'est publié chez Solar. Merci Muriel Decamp. Jumeaux, la fascination du double a été publié au Cavalier Bleu. Merci Isabelle Sudre. Comment contacter la Fédération Jumeaux et Plus ?
Un numéro de portable, 06 73 51 05 78.
Et on va le mettre sur le site. Merci beaucoup. Demain, on s'intéresse aux bienfaits de la cuisine japonaise. Toutes vos questions dès maintenant sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main.